Session sur la philosophie. Session de philosophie sur la personne humaine par le père Marie-Dominique Philippe Arimon, le
11 mars 1994.
Certains au sous-sol, d'autres au rez-de-chaussée, d'autres premier étage, troisième étage. C'est difficile. Alors, je crois que même quand on est au rez-de-chaussée, il y a une toute petite lucarne sur ceux qui passent sur la rue. On voit leurs pieds, oui. C'est rien, c'est déjà quelque chose. Alors, voyez les pieds de l'être. D'autres au rez-de-chaussée voient la personne entière et puis les autres vont au-dessus. C'est très vrai. C'est pas commun du tout. Quand on commence un cours, n'est-ce pas, on prend tout à fait au point de départ. Ici, je suis obligé, je crois, non pas de faire un cours intermédiaire. J'aime mieux de faire un cours qui soit le plus profond possible. Parce que même ceux qui n'ont pas fait de philosophie, écoutez un cours intelligent, les rend intelligents. C'est toujours comme ça. Vous voyez, quand on n'a pas travaillé telle ou telle science et qu'on écoute un savant, un vrai savant de cette science, on en retire des quantités de choses. On sera incapable de répéter après, mais absolument incapable. Tandis que si on a déjà très habitué, on pourra répéter après. Mais l'intelligence ne consiste pas à répéter. Donc tranquillisez-vous. Je suis incapable de répéter, ça ne veut pas dire d'abord oui. Ce qu'il faut, c'est que le cours vous intéresse. Que le cours vous accroche. Que le cours vous maintienne dans la recherche de la vérité. Alors, ceux qui sont tout à fait au début, quand il y a des mots, qu'est-ce que ça veut dire ce mot être? C'est pas une espèce d'arbre, vous savez, l'être. C'est pas ça, c'est pas l'être. Être, c'est lorsque vous dites ceci est. On va y arriver. Là, je pars tout à fait au point de départ, mais radical, mais qui est très difficile à comprendre. Hein. Parce que dites-vous bien que le philosophe s'intéresse aux choses. Pour la plupart du temps, on ne s'arrête pas. Quand vous allez acheter des carottes au marché, pas à Paris, mais dans une petite... à Charolles, par exemple, un beau marché, vous achetez, il faut des carottes. Vous n'allez pas dire, est-ce que ces carottes existent? Non. Vous posez la question comme ça, dire il est fou celui-là. Elle dit non, je fais de la philosophie, madame. Et on m'a parlé d'être, on m'a parlé d'exister. Et je sais qu'aujourd'hui, on peut faire des choses tellement extraordinaires. Représenter des carottes. Et vraiment, je crois que c'est des carottes. Et puis, elles sont pas vraies. J'arrive jamais à les toucher. Chaque fois que je les touche, elles s'en font. Curieuse. Vous voyez, le toucher, les soucoupes volantes, vous savez, les soucoupes volantes, hein, à un moment donné, on a beaucoup parlé des soucoupes volantes. Mais là, j'ai essayé de voir quelqu'un qui les avait touchées. Dans aucune description, on m'a parlé du toucher. On les a vus. Mais ils ont fait du bruit. Qu'est-ce que c'est? Et vous parlez avec des spécialistes des soucoupes volantes. C'est quoi dur comme fer, tu vois. Encore maintenant, je connais un ami qui a tout vu sur les soucoupes volantes. Il pourrait me faire une thèse sur les soucoupes volantes. Puis au terme, conclusion, ça n'existe pas, mais ça a intéressé beaucoup de gens. Jugement d'existence. Est-ce que ça existe? le sens commun et la philosophie. Mais il y a une réflexion profonde. Le sens commun ne réfléchit pas beaucoup. Hein. L'existence des carottes, vous n'avez pas beaucoup réfléchi dessus, je crois. Ou des pommes de terre, si vous aimez mieux. Le philosophe réfléchit sur ce qu'il y a quelquefois de plus commun. C'est pour ça que saint Thomas dit que le mot être, quand tu dis je suis, c'est le mot qui exprime le mieux ce qu'est Dieu. C'est le plus commun. C'est extraordinaire. Quand quelqu'un dit ça, Dieu dit je suis. C'est pour ça que Descartes dit cogito. Et là, la différence de Dieu, il est grâce à son cogito. Dieu aussi, il existe et il pense. Et il contemple. Et en lui, il y a identité. C'est que Descartes veut dire donc. Et le donc de Descartes n'est pas du tout un donc qu'une conclusion. C'est simplement on passe de l'un à l'autre. Cogito, je suis. Dieu, il est. Et il contemple. Et sa contemplation, c'est son être. Et son être, c'est sa contemplation. Et c'est son amour. Oui, le philosophe regarde les choses les plus communes, mais par rapport à l'homme, c'est ça que je voudrais que vous reteniez. La première chose, c'est que le philosophe s'intéresse à l'homme et tout ce qui regarde l'homme l'intéresse. Tout, absolument tout. Alors, nous allons maintenant commencer. Je vais forcément aller très rapidement, parce qu'il faut arriver vite au sommet. Mais au moins, comprenez, il y a un point très important. Quel est le point de départ de la philosophie? Je serais intéressant de savoir à quelle station on part. À une station où il y a des trains. Si on part par le train, où il y a un garage, si je pars en auto. Si je regarde la philosophie européenne, je vois que les points de départ des philosophies sont très divers. Et là, il y a un problème extrêmement intéressant, je vais rapidement, mais qui est très intéressant, auquel il faut tout le temps venir. amusé. Et je dis, la philosophie de l'an 2000, mais il n'y en a pas. Alors j'ai vu qu'il m'avait invité, il est bien obligé de me payer la conférence. Il n'y en a pas de philosophie de l'an 2000. L'homme de l'an 2000 continuera de penser. Peut-être qu'à ce moment-là, il dira des choses tout à fait différentes de celles de maintenant. Je ne crois pas tellement. Il y a une continuité de la pensée. Extraordinaire. Et on se trouve tout le temps. Il y a un royaume des philosophes où on se retrouve. Ah oui, on voit qu'il y a des places différentes, des fauteuils de première classe. Ils sont arrivés. Et puis il y a celui qui reste debout tout le temps. C'est très vrai, il y a des numéros différents. On part de l'expérience, l'expérience interne. Je suis capable d'aimer, j'aime. L'expérience externe. Je vois la lumière. Vous avez remarqué comme la lumière est belle. Vous avez remarqué ça quand même. Venir ici, surtout quand on vient de Paris, quand même, la lumière, c'est quelque chose, la lumière. Et les Grecs, la lumière, c'était énorme. La lumière, la couleur, l'expérience externe. Puis quand on est tout près des montagnes, la neige, au sommet des montagnes.
Sexualité de l'araignée.
ça l'intéressait beaucoup. Alors il avait tous les bouquins dessus. Parce que l'araignée est un animal terriblement irascible. Vous n'avez qu'à vous laisser piquer, vous verrez comme il est irascible. Il y a des araignées qui sont très très méchantes. Je me souviens quand j'étais une fois dormir dans un ranch au Texas, quand je suis arrivé, on m'a montré, voyez, vous allez dormir là. Puis on me dit, voyez cette araignée, je l'ai regardée, elle est mortelle. Et puis on me dit, au premier étage avec l'araignée en bas, si elle sentait la chair fraîche, elle l'expérience. On arrive à un monde où les hommes ne savent plus ce que c'est que l'expérience. C'est ça qui me semble la chose la plus désastreuse, parce qu'on va très vite. Quelle est l'expérience que vous avez quand vous montez dans le TGV? Ça va tellement vite que vous ne voyez plus rien. Ah, vous avez l'expérience d'être assis. Ça, c'est sûr. Vous avez l'expérience de vous endormir aussi. Vous avez l'expérience, quelquefois, de regarder et puis de voir les choses à toute vitesse, à toute vitesse. C'est une expérience. Je crois que si la philosophie doit mener à la connaissance la plus profonde, la plus universelle et la plus singulière, et tous les philosophes désirent joindre le singulier et l'universel. C'est très curieux. C'est le grand problème de la philosophie hegelienne d'aujourd'hui. Le singulier est l'expérience. Je touche une réalité et en même temps, je veux la connaître en profondeur. Ma connaissance a un mode universel pour pouvoir se communiquer. Parce qu'on voit l'expérience particulière, mais je l'ai, je peux la décrire, mais je suis unique à la faire. C'est vrai. Alors je crois que nous, si nous voulons avoir une philosophie réaliste, c'est-à-dire de la réalité de ce qui est, et de l'homme en tant qu'il est, en tant qu'il existe, c'est-à-dire de Pierre, Jacques et Jean et de moi-même, on part de l'expérience. Et de l'expérience qui fait appel au sens externe. Et c'est pour ça que je dirais que le point de départ d'une philosophie réaliste, c'est le jugement d'existence. Et là, je touche quelque chose qui est fondamental, qui est sain. Nous pouvons tous avoir l'expérience du jugement d'existence. Et alors c'est ça qui me semble important, c'est qu'une philosophie, une vraie philosophie de recherche de la vérité, doit pouvoir se communiquer aux hommes. Le philosophe est au service des hommes pour leur apprendre à mieux comprendre ce qu'ils sont. Et je dirais tout de suite, voyez, que ma philosophie part du jugement d'existence au jugement je suis. Alors, c'est simple. Je pars du jugement d'existence, ceci est, je suis. Et cela enveloppe tout. C'est pour ça que ma philosophie s'intéresse à tout. Jusqu'aux soucoupes volantes pour savoir si c'est réel ou pas réel. Est-ce que aller dans la Lune change quelque chose au point de vue philosophique? Quand même intéressant de savoir ça. Le cosmonaute, est-ce qu'il a une expérience nouvelle? Est-ce que son jugement d'existence va se modifier? Hein? C'est intéressant. Durant le voyage, son jugement d'existence a tremblé beaucoup. Et votre jugement d'existence, si vous l'avez déjà fait, peut-être jamais pensé, tu dis, ceci existe, mon voisin, ma voisine, ah c'est curieux, elle existe. Est-ce que c'est un fantôme, est-ce que c'est quelqu'un de réel? Le jugement d'existence. Voyez, vous avez l'expérience de voir, par exemple, une fleur, des premières. phrase est mise entre parenthèses. C'est pour ça qu'il y a une philosophie, celle du CERN, où le jugement d'existence est mis entre parenthèses. C'était ce que Brunswick disait au début de ses cours. Je ne l'ai pas entendu, mais mon vieil oncle me l'a raconté parce qu'il a le père de Hooke quand il y allait de temps en temps. Brunswick commençait ses cours de philosophie. Messieurs et mesdames, mettez à la porte votre bon sens. Nous allons philosopher. Donc, on mettait entre parenthèses le jugement d'existence. On ne s'occupait plus de savoir si la réalité existe ou n'existe pas. On spéculait sur des idées. Mais spéculer sur des idées, très bien. Mais à quoi ça sert? Si ces idées sont... signification de « et ». vraiment les philologues. Les grands philologues s'intéressent toujours au verbe être dans toutes les langues. Il y a des langues dans le verbe être et tout de suite, et dans des langues dans lesquelles le verbe être est venu très longtemps après. Parce que le verbe exprime l'action. Alors, quelle est la super action ? C'est le verbe être. En grec, le verbe être est tout de suite. En latin, le verbe être est très, très lointain. C'est intéressant parce que ça fait tout de suite le génie d'une langue, ça, vous voyez. Mais le langage, c'est important, mais il ne faut pas s'y arrêter. Au point de vue philosophique, il faut le dépasser pour garder la signification réelle du langage par rapport à la réalité. Donc, le premier problème philosophique, tout à fait à la base, quelle différence y a-t-il entre ceci et ceci ? Ceci exprime quelque chose, n'importe quoi, et montre que ceci existe. Il existe. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe ? Ça veut dire qu'il est. C'est-à-dire qu'il a en lui-même une réalité. Il est. Alors vous voyez, c'est ça que tout de suite je touche. Parce que c'est très important. Ceci. Ça ne m'intéresse pas au point de vue philosophique. Même si c'est l'araignée. Cette araignée existe. Je l'ai vue. Cette araignée mortelle existe. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est « et ». Parce que ça, c'est tout à fait fondamental. Et alors, quand je vois ceci, ça peut se décliner n'importe quoi.
Ceci.
parce que c'est le dernier grand philosophe, et que de fait c'est intéressant de voir que ces questions-là se posent actuellement, et que ces questions-là sont les questions des philosophes d'aujourd'hui. Il ne faut pas croire du tout qu'on est en scolastique, je me coupe, mais pas du tout, c'est les questions de ces philosophes-là. Heidegger dit, posez la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est le sommet de ma pensée. Il reste là. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas répondre. Et pourquoi il ne peut pas répondre ? Parce que pour lui, ceci est, regarde, telle réalité. C'est vrai. Le chat, Minet, telle réalité, ceci est. Cette telle réalité, dans son langage, c'est un étang. C'est-à-dire, c'est une réalité qui existe, mais qui est limitée. Ce n'est pas l'être. Alors, il laisse à la science le soin de regarder toutes les réalités limitées. Et il dit, il faut nier tous les étangs pour que l'être apparaisse. Il faut nier tous les étangs pour que l'être apparaisse. Donc l'être apparaît dans la néantisation, pour employer son langage, dans la néantisation de tous les étangs. Et l'être apparaît dans l'intelligence. C'est l'intelligence qui fait que l'être peut être regardé comme être. Les réalités que je vois donc moi-même, je suis un étang, je suis une réalité sensible, une réalité limitée. Par le fait même, quand il pose la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?», son seul recours, c'est de réfléchir sur l'interrogation. Puisque l'être naît dans l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Il ne peut pas faire ce que nous faisons. Quand je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Je reviens à cette réalité. Et dans cette réalité, j'essaie de comprendre son être. Puisque pour nous, dans un réalisme, telle réalité, elle est telle et elle existe. Dans le devenir, il y a l'être. Toutes les réalités impliquent un devenir. Elles sont toutes changeantes. Mais toutes ces réalités changeantes existent. Et donc, je dois me poser la question, qu'est-ce que ça représente d'exister ? Qu'est-ce que ça représente cet être ? Et pour la comprendre, je reviens à l'expérience. Donc vous voyez, le point de départ de toute la pensée philosophique réaliste qui veut étudier ce que c'est que l'homme tel qu'il est part de l'expérience. Mais dans l'expérience, au-delà de l'expérience qui se donne grâce au sens, je découvre ce que l'intelligence seule atteint. L'être nécessite pas l'intelligence. Là, vous commencez à comprendre ce que saint Thomas répète, je crois, 175 fois. Je n'ai pas compté, mais quelqu'un a compté pour moi. Petite thèse qui s'est faite à la Grégorienne. Saint Thomas, 175 fois. Primo. qui est. Traduisez ens, ce qui est. Ens. Ne traduisez jamais ens, latin, de Thomas d'Aquin, par étant. Bien que ce soit le participe de l'être. Faut pas dire étant. Parce qu'alors tout de suite, on est dans la voie heideggerienne. Ens, ce qui est. Qu'est-ce qui tombe en premier lieu? Qu'a dit tomber? Ça vient de ceci, ça vient d'Avicenne. Ce n'est pas Aristote, c'est Avicenne. Avicenne, voyez bien Avicenne, le point de vue musulman du 8e siècle en Espagne. Avicenne était le plus grand savant de son temps. Philosophe qui a joué un très grand rôle au Moyen-Âge. Albert le Grand, maître de Thomas d'Aquin, a été formé par Avicenne. Et Avicenne a donné toute une philosophie qui est une sorte de mélange, je ne dis pas de synthèse, mais un amalgame, une espèce de composition entre Aristote et Platon. Alors, ce qui tombe en premier lieu dans l'intelligence, ce qui est. Donc, pour saint Thomas, l'éveil de l'intelligence, mon intelligence s'éveille quand elle touche ce qui est, en tant qu'il est. Tant que je n'ai pas touché ce qui est en tant qu'il est, reste lié à l'imagination, aux sensations. Mon intelligence n'est pas éveillée pour elle-même. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On arrive à éteindre l'intelligence en faisant que l'intelligence n'arrive jamais à dépasser les sensations, à dépasser l'imaginaire. Le but de la philosophie, c'est de réveiller l'intelligence. Donc de voir l'intelligent. C'est ça le but de la philosophie. C'est pas autre chose que ça. Hein. Ça vous apprend rien du tout pour savoir ce que c'est qu'une araignée. Non, absolument pas. Ça vous apprend pas du tout pour savoir ce que c'est que... C'est pas un couteau. Non, non, pas...
Session de philosophie sur la personne humaine par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 11 février 1994, quatrième conférence.
Vous n'en pouvez plus, c'est pas vous. Vous vous reposerez. Le travail, c'est froid quand même. Alors, je suis obligé. Paresseux. Ils ont répété. Ils ont fait.
construit une philosophie à partir d'une biologie, ce qui est très mauvais. Et de fait, il faut comprendre ça aussi, parce que ça fait saisir pas mal d'erreurs. On a tout de suite commencé par la logique. Et quand on commence par la logique, on n'en sort plus. Alors on a commencé par l'universel, en disant que la première chose que l'intelligence connaît, c'est l'universel. Ce qui est tout à fait faux. Je ne connais pas directement l'universel. Je le connais en réfléchissant sur ma manière de connaître. Mais je ne connais pas directement l'universel. Ça n'a aucun intérêt de connaître l'universel. C'est un être de raison. On l'aime beaucoup parce que ça vient de nous. Mais c'est assez vide, l'universel. Essayez de réfléchir sur l'universel. Si je faisais un cours de logique, je commencerais par l'universel. Mais, de fait, c'est pas ce qui est premier. Ce qui est premier, c'est l'homme face à l'univers. C'est l'homme travaillant. De votre vie, c'est le travail. Vous faites de temps en temps, vous en avez par-dessus la tête. Et quand on vous enlève le travail, vous êtes malheureux. Non, c'est curieux ça. Surtout l'homme, la femme, c'est toujours s'ébrouiller. Parce qu'elle a le ménage, elle a la maison, elle s'ébrouille tout le temps. Mais l'homme, enlevez-lui son travail. Alors, il n'est plus que sur son épouse. Il la garde tout le temps. Travailler. C'est extraordinaire de voir combien le travail et l'activité qui prend l'homme tout entier. Quand vous voulez analyser ce que c'est que l'homme travaillant et l'expérience que vous avez du travail. Travail manuel. Le travail intellectuel, c'est quoi du travail? Pendant la guerre, on considérait que les intellectuels n'étaient pas des travailleurs. Alors ils n'avaient pas de carte de travail. Je me souviens, c'était l'expérience que j'ai faite douloureuse. C'était à Fribourg, il y avait un gros chien méchant. Il résistait paisiblement, mon office. Ça a dû le mettre en rage. Alors il m'a dépassé, il m'a croisé, puis il m'a pris par derrière. Il m'a attaqué, un grand chien comme ça. Là, j'ai vu d'où il sortait. De loin, regardez, il me dit, oh, le chien, il est comme les patrons, il n'aime pas les curés. Alors heureusement qu'il a ajouté tout de suite, oh, ne vous inquiétez pas, il est assuré. Alors je me suis renseigné. Il fallait quand même, on est tout de suite, il faut quand même faire une piqûre contre la rage. Parce qu'il a pu attraper la rage en voyant un curé. Alors on a fait un petit procès là-dessus. Puis je me suis dit quand même, j'ai perdu 2 heures. 2 heures de travail. Alors, celui qui va faire ça m'a dit, vous travaillez quoi? Professeur de philosophie, travail intellectuel. Ah, le travail intellectuel, ça ne se compte pas. Très bien. J'avais dit que j'étais maçon, si j'avais dit que j'étais, je la pourrais la taire, 2 heures, j'aurais été bien payé. philosophie européenne a commencé par un livre sur le travail. C'était un bon laboureur, fermier, malheureux en ménage et heureux avec ses bœufs. Et il essaie de faire la philosophie du travail. Il fait la philosophie du travail et une théogonie.
Pour montrer que Hésiode a un regard
premier outil qu'on a fait, c'est l'aron. Il semble bien. C'est l'aron. Dans ce que j'ai eu des choses, c'est bien assez normal, du reste. C'est l'aron. Les derniers outils qu'on a fait, hein. Les mirages. C'est un outil extraordinaire. Et on est au service de l'outil. Tandis que la roue, c'est au service de l'homme. Il y a un renversement complet dans le travail. Alors c'est pas étonnant qu'il y ait un déséquilibre complet dans le travail. C'est par l'outil. Mais dernier philosophe, Heidegger, Bergson, toute une série de philosophes.
Je crois que toute anthropologie
notre univers physique, c'est-à-dire de la matière. Qu'est-ce que c'est que la matière? Qu'est-ce que c'est que ce monde physique dans lequel je me trouve? Ce milieu dans lequel je me trouve? Que je suis capable de transformer, mais qui a existé avant ma transformation. Voyez, il faut lutter contre la dialectique matérialiste, contre Marx, contre Lénine, qui tous ont dit que la matière ne pouvait se connaître qu'en la transformant. Ce qui est faux. Il y a une connaissance du monde physique pour lui-même. Pourquoi? Parce que je suis
très bon.
Heidegger n'aime pas beaucoup de dire que l'homme est un animal, c'est pourtant vrai. Je suis un animal qui par moments est raisonnable et qui par d'autres moments ne l'est pas. Et tous les jours, vous avez des moments de folie. Tous les jours. Vous ne voulez pas reconnaître. Vous dormez. Tous les jours, vous dormez. C'est des moments de folie, ça. Vous n'êtes plus très raisonnable quand vous dormez. Vous remettez votre corps à l'univers. L'enfant n'aime pas dormir. Hein. Curieux, curieux. Les petites bêtes dorment patiemment. Et les grosses aussi. matière. Donc, je ne peux pas connaître parfaitement le travail si je ne connais pas parfaitement ce qu'est la matière. La matière antérieure au travail. C'est antérieur. L'amour d'amitié, je ne peux pas connaître parfaitement l'amour d'amitié si je ne connais pas la limite. transformer dans une œuvre. Le travail de la cuisine se termine dans un plat appétissant. L'amour d'amitié se termine à l'ami, comme ami. Tous, il y a toujours le jugement d'existence. Vous voyez, il y a cinq modèles. Dans Mais maintenant, c'est des peu.